Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Patricia.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur l'antenne RTL.
Merci beaucoup à vous d'avoir pris mon appel. Merci à votre équipe aussi.
C'est gentil. Alors, vous voulez me parler, je crois, de la relation que vous avez avec votre mère.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, je vais essayer d'être synthétique pour vous décrire la situation. Et
vous pourrez développer après.
Exactement, si besoin, oui. Moi, j'ai 58 ans. Mm-hmm. J'ai donc des parents qui nous ont eus très jeunes. J'ai une sœur jumelle, en fait.
Ah oui, d'accord.
Fausse jumelle. Oui. Qui nous ont eus très jeunes. Donc, on est nés toutes les deux en 63. Et ma mère avait 19 ans, mon père en avait 24. Mm. À l'époque, c'était pas une grossesse désirée. Je pense que ça explique peut-être un peu des choses qui sont passées après. Je sais pas trop, en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas attendus. Voilà, à l'époque, c'était compliqué d'avoir des enfants non désirés. On est mis en plus avec...
Même si c'était fréquent.
Oui, c'était fréquent, mais malheureusement pas bien accepté.
C'est déjà compliqué d'avoir déjà un bébé et deux qui arrivent là.
Oui, deux à la fois. Oui, d'ailleurs, c'est quand ma mère a appris qu'elle en avait deux, elle a accouché le lendemain, tellement ça lui a fait un gros choc. Voilà, donc du coup...
Oui, il n'y avait pas les échographies.
Voilà, exactement. Et du coup, on est arrivé dans ces conditions-là. Ma mère s'est fâchée avec ses propres parents, etc. Bref. Et puis, du coup, au départ, on a été confié à une nourrice à plein temps, puisque mes parents n'avaient pas les moyens de nous héberger toutes les deux.
Voilà. Ils vivaient ensemble, vos parents ?
Oui. Ils vivaient ensemble. Ils se sont mariés d'ailleurs un mois avant notre naissance. Donc, j'ai envie de dire, la relation entre eux semblait stabilisée. Voilà, exactement. Mmh. Je pense qu'on est nés de l'amour, toutes les deux quand même.
Oui.
Voilà. Et puis donc, mes parents avaient une situation chacun, mais des moyens financiers quand même très modestes. Mmh. On a eu une enfance, honnêtement, que moi je qualifierais quand même d'heureuse parce que. À l'époque, peut-être, je me rends trop compte, finalement, de ce qui pouvait exister par ailleurs. Et au fond, plutôt assez équilibré quand même, globalement, même si la relation avec ma mère a toujours été un peu compliquée. Oui. Et je m'en suis rendu compte a posteriori et de plus en plus quand ma vie a avancé. Alors, les choses ont commencé à se gâter quand j'ai été adolescente. Je suis partie de chez mes parents, en fait, pour aller faire des études supérieures, parce que j'ai eu la chance de croiser le chemin de gens qui m'ont bien conseillé, voilà, qui m'ont sorti la tête un peu de mon environnement. Mm-hmm. Et donc, j'étais la seule dans ma famille à faire des études, à passer même le bac. Hein, voilà, mm-hmm. Donc je suis partie à l'âge de 17 ans, en classe préparatoire, etc. Et puis, mes parents n'ont jamais compris vraiment, je pense... ça, n'ont jamais soutenu la démarche, donc j'ai fait mes études contre leur avis.
Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils voulaient pour vous, eux ? Ils pensaient, oui, finalement...
Oh, mes parents, ils voulaient que je sois fonctionnaire.
Ah. Bah, voilà, ils voulaient pour vous la sécurité.
Ouais, c'était leur référentiel, je pense. Oui. Et, voilà, et moi, c'est vrai que j'étais conseillée par des gens qui me laissaient penser que je pouvais faire autre chose et j'avais envie de tenter ma chance. Voilà.
Oui, mais ils ne connaissaient pas cet univers-là.
Voilà, pour eux, c'était l'inconnu, c'était compliqué, c'était l'incertitude. Ils voulaient qu'une chose, c'est que je ne sois pas au chômage, en fait. La réflexion, c'était ça. Bon. Oui. Donc, je suis partie. Ma sœur était partie avant parce qu'elle a fait un CAP, donc elle a fait des études plus courtes. Oui. Donc, ils se sont retrouvés finalement à 36 ans, 35 ans, tous les deux.
Sans enfants, oui, parce qu'ils n'en ont pas eu d'autres après.
Non, après ça a été terminé. Voilà, et du coup, à chaud, moi, je n'ai pas mesuré que pour eux, c'était peut-être difficile, mais je pense que ça a été une période un peu compliquée à la réflexion pour eux. Voilà, puis moi, je suis partie, j'ai fait mes études, j'ai rencontré mon mari très jeune aussi, en classe prépa. Bref, et puis on a fini nos études tous les deux à Paris. Et puis, on a été pris dans le cercle classique, des gens qui ont des vies bien remplies, des carrières professionnelles très denses. On a eu trois garçons nous-mêmes, donc voilà. Oui. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir rencontré l'homme de ma vie, qui reste l'homme de ma vie.
C'est formidable, oui.
Voilà, voilà.
Depuis la prépa, il est toujours dans votre vie.
Exactement, voilà. Et puis, on a trois garçons qui sont vraiment formidables avec nous. Et franchement... J'ai coché toutes les cases du bonheur. De ce point de vue, vraiment, j'ai beaucoup de chance. plus. Et du coup, au fil du temps, l'éloignement avec mes parents s'est accru parce que d'une part, en termes de peut-être milieu socio-professionnel, forcément, on a évolué dans des environnements très différents. Et puis, je pense qu'ils ont fait un énorme complexe d'infériorité, bon, probablement, que pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir du tout
Provoqué,
mais
oui.
Voilà.
Mais ça se traduisait par des réflexions.
Ça, oui, ça se traduisait par, en tout cas vis-à-vis de moi, j'étais la chanceuse de la famille, si je peux dire ça.
D'accord.
Et par opposition, en plus, à ma sœur qui a eu des graves problèmes de santé, qui a divorcé, etc. Donc vraiment, voilà, une opposition très forte forcément entre nous deux. Et je suis passée pour celle qui est très solide, très chanceuse dans tout, voilà, enfin voilà.
Tout, à qui tout, tout réussit finalement.
Voilà, ouais. Exactement, à qui
et
tout
qui
réussit.
Qui suscite un peu d'envie.
Voilà, certainement, probablement. Et puis, bon, nos trois garçons qui aussi sont formidables avec nous. Ils font chacun leur chemin. On n'a pas de soucis du tout de ce côté-là. Donc, on a beaucoup de chance avec tout ça. Et puis, ben, j'ai un métier que j'aime beaucoup. Je travaille comme une dératée, mais j'aime mon métier. Mmh. Et voilà, et je m'estime que j'ai beaucoup de chance. La seule ombre dans le tableau, c'est justement la relation avec alors mes parents, mais surtout ma mère maintenant, puisque j'ai perdu mon père au début de l'année... qui est décédé du Covid. Et j'ai envie de dire, tant qu'il était là, j'avais la force d'essayer de préserver le lien, parce que c'est quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi. Et je pense que c'est lui qui m'a encouragée à ne pas casser finalement le lien. Et maintenant qu'il est plus là, je m'étais dit, au moment de son décès, j'espère qu'elle va se rapprocher de moi, qu'elle va chercher à renouer une relation de mère à fille, de confiance. Mais voilà, c'est l'opposé. C'est très, très, très compliqué. Tout est compliqué. Faut tout que je devine. En plus, on est éloigné géographiquement, donc ça ne simplifie pas les choses, bien sûr. Et du coup, là, j'en suis à un point. Alors, je vous passe les détails des sujets de succession, de tout ça. On découvre les choses la veille pour le lendemain. Je dois signer des papiers, je les ai même pas en avance.
Qui s'en occupe alors, en fait? C'est votre mère, c'est votre sœur?
Oui, c'est ma mère qui... Non, alors ma sœur, elle est incapable de s'occuper de tout ça parce qu'elle a trop de soucis, elle a vraiment un peu...
Ah bon?
La pauvre, un peu, en difficulté. Et du coup, c'est ma mère qui fait les choses.
Oui, donc c'est votre mère qui fait les démarches.
Voilà, c'est ça. Alors, elle est plutôt pas en mauvaise santé, globalement. Bon. Elle a la tête sur les épaules, voilà. Ce qui me perturbe le plus finalement, c'est que elle n'a pas su installer de complicité avec nous, d'intimité, elle partage rien, elle fait tout dans son coin. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer ce qui parfois est vraiment difficile à comprendre. Quand mon père est décédé, alors moi, heureusement, elle m'avait appelé évidemment pour me dire qu'il était hospitalisé. Quand j'ai su qu'il était hospitalisé pour ça, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vite le voir. Donc, j'y suis allée, heureusement. Et du coup, je l'ai vu. Et donc, j'y suis restée 3 jours. Et puis, le mercredi soir, comme les choses étaient stationnaires, j'ai été obligée de repartir pour prendre mon travail. Et il se trouve qu'il est décédé le jeudi midi. Donc, elle m'a rappelé pour me dire qu'il était décédé, etc. Ouais. Et du coup, on s'est occupé de la cérémonie. Mon père était quelqu'un de très croyant.
Oui.
Et donc, moi, je savais que pour lui, c'était important d'avoir une cérémonie à l'église.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et ma mère le savait aussi. Mmh. Et quand elle m'a rappelé pour me dire comment elle imaginait la suite, la cérémonie, tout ça, elle me dit, de toute façon... on va faire simplement une bénédiction au cimetière parce que le curé, vraiment, c'est quelqu'un de pas bien. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait contre ce curé, mais bon, peu importe. Et voilà. Et du coup, elle avait décidé seule dans son coin qu'une bénédiction au cimetière, ça suffirait.
Oui, ce qui n'était pas, vous saviez que, compte tenu votre père, vous dites, il était très croyant, donc c'était important pour lui d'avoir une messe.
Exactement.
Et là, vous n'avez pas pu le dire, enfin, ou c'est parce que c'était alors, un peu agressif de la part de votre mère, au fond. Enfin,
oui, c'est ça. Alors,
de
ça
dire, elle savait, au fond, qu'il voulait. Oui. C'était important pour votre père, donc décider.
Mais en fait, elle a toujours fait les choses. Malheureusement, moi, je me rends compte, je crois quand même maintenant, c'est qu'elle a fait les choses toujours par rapport à elle et pas par rapport aux autres.
Mais comment s'entendaient-ils, vos parents, après ? Parce que alors, bon, ils se sont aimés, ils étaient très jeunes, mais au fil du temps, quel couple formait-il ? Parce que là, c'est un peu presque en opposition à lui, quoi. Le curé, bon, il n'est pas comme ça, tant pis, à la limite, comment est le curé, dans la mesure où c'était le souhait de votre père.
Oui, c'est, alors du coup, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Ils étaient très... alors, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que mon père avait fait un AIT il y a quelques années, 4-5 ans. Oui. Bon, qu'il avait un petit peu diminué, c'est vrai, il avait des petits moments d'absence, il avait... Mais bon, globalement, c'était quand même quelqu'un qui a été très actif longtemps, voilà.
AIT, c'est en dessous, c'est-à-dire que ce n'est pas l'accident vasculaire, enfin, c'est une forme plus légère.
Oui, c'est ça, exactement. Hein, c'est ça. Et maman prétendait qu'il avait Alzheimer, etc., ce qui n'était pas le cas, hein, objectivement.
Non, c'était lié à ça un petit peu.
Léger quand même, voilà. Et en fait, je pense qu'entre eux, pour rejoindre votre question, les liens s'étaient beaucoup distendus ces dernières années et qu'elle n'avait plus vraiment envie de sacrifier trop son quotidien, au fond, pour lui. Mmh. Et notamment, elle avait pris la décision l'été il y a un an, de le mettre dans une maison de retraite contre son gré en fait hein. Ce que moi j'ai pas bien vécu parce que alors après c'est compliqué quand on est loin de dire
c'est ça bien sûr c'est votre mère qui partageait le quotidien évidemment
voilà
et donc, mais votre père ça a dû être dur pour
c'était horrible
parce que lui ne voulait pas y aller.
Non, lui voulait pas y aller. Mmh. Elle l'a, voilà. Alors, elle s'est appuyée sur ses soucis de santé, ses absences pour dire qu'il pouvait plus rester avec elle.
Oui.
Et alors, elle avait eu des graves soucis de santé un an avant, donc je pense que tout ça a joué aussi.
Oui, elle sentait peut-être fatiguée.
Dans sa décision, voilà. Oui. Je pense qu'elle s'est sentie aussi, plus en mesure de faire face. Mmh. Et du coup, elle l'a placée. Mon père, quand je l'ai appelé tout l'hiver dernier, à chaque fois, il me disait :« Je suis en prison, je m'ennuie. » Je sentais qu'il dépérissait mentalement, en fait.
Hein. Oui,
voilà, et en fait, il a attrapé le Covid dans cette maison. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, du coup, à accepter ça, parce que même si je n'ai pas fait de reproche à ma maman...
Vous lui en vouliez un peu.
Au fond, voilà, je pense que dans mon fort intérieur, je me dis comment on peut laisser quelqu'un qu'on aime... dans cette situation.
Quand elle a pris cette décision, la pandémie n'était pas là déjà.
Si, parce qu'en fait, elle l'a mis en maison il y a un an, c'était en septembre, et la pandémie était là depuis mai, donc si.
Elle n'a pas forcément mesuré cela. Enfin, peut-être qu'elle
même. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, en effet, la question que vous posez, qui est quelle nature de lien ils avaient à la fin, m'interpelle. En effet, je pense qu'il y avait quelque chose qui s'était un peu cassé entre eux.
Oui.
Voilà, alors pourquoi je vous appelle aujourd'hui, c'est que je me dis, cette situation me pèse beaucoup, en fait. Et au fond, là, aujourd'hui, je ne sais plus, en fait, comment essayer
auprès
d'elle.
Ah, d'accord.
Ce qui me pèse, c'est qu'elle ne décroche jamais son téléphone pour m'appeler, c'est toujours moi qui le fais.
D'accord. Mais quand vous l'appelez, elle semble contente
Je ne sais pas dire.
Vous l'appelez régulièrement ?
Je l'appelle de moins en moins, parce que moi-même, je n'ai même plus l'envie. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que je me dis que je suis en train de lâcher prise, en fait, de laisser tomber, parce que je n'y crois plus. Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle en ait besoin, ou que ça lui fasse plaisir. Mais moi, contre, je sais que ça me rend malheureuse. Quoi.
Voilà, bon, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que ça vous rend malheureuse. Quand vous dites que vous n'y croyez plus, au fond, c'est qu'il y a une attente derrière chez vous.
Oui, je pense que, en fait, j'ai deux comparaisons. Alors, probablement, c'est ça aussi qui me fait prendre la mesure de ce qui nous a éloignés au fil du temps. Bon, déjà, la relation avec mes enfants, avec nos enfants qui vraiment n'ont rien à voir avec ce que je vis avec ma mère.
Bon, tant mieux, ça veut dire que on ne répète pas toujours. Vous avez un lien tendre, chaleureux avec vous. Ce sont des garçons aussi.
C'est plus
simple parfois.
Enfin,
bon, après, il y a toujours c'est toujours. Mais une mère et ses garçons, il y a quelque chose de très particulier dans ce lien.
Ah oui, ça je te le confirme, c'est un vrai bonheur.
Il y a la rivalité en moins. que quand c'est avec un enfant du même sexe.
Vrai, oui. C'est vrai. Et puis l'autre comparaison que j'ai, c'est la relation que nous avons avec la maman de mon mari, qui elle aussi est toute
oui,
seule,
d'accord.
qui est plus âgée, hein, qui a 92 ans, et qui est tellement plus simple, tellement plus fluide, oui. tellement plus dans la confiance. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Donc oui. j'ai plus d'affection et de proximité avec la maman de mon mari oui. qu'avec ma propre mère, quoi.
Oui, c'est un peu la maman que vous auriez aimé avoir.
Ouais, voilà. Donc
et elle est d'autant plus puisque il y a moins d'enfants. Enfin, vous l'aimez beaucoup et réciproquement. Et du coup, c'est un peu la maman idéale, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis, mais comment c'est possible d'arriver à cette situation-là, quoi. J'ai beaucoup de difficultés à l'accepter, en fait.
Mais comme vous dites, ça ressurgit aussi un peu sur le tard et pas à n'importe quel moment, au moment où vous avez perdu votre père aussi. Il y a ce et ça vous ramène enfin forcément il y a eu un moment vous le dites bien d'ailleurs vous avez je vous remercie c'est pas facile de synthétiser comme ça une relation d'une telle complexité où vous dites bah enfance heureuse globalement avec c'est à l'adolescence enfin c'est vous étiez une jeune fille brillante 17 ans vous lancez dans une prépa et peut-être premier éloignement, distance avec votre milieu familial ou finalement, oui. pas manque d'amour mais une forme d'incompréhension où vous évoluez dans un univers qui échappe à vos parents.
Oui, c'est ça. Oui.
Dont ils n'ont pas les codes. Et ça peut être un peu douloureux. Et même oui, pour vous. Pense, oui. Et même pour vous. Parce que c'est sur le moment, non. Puisque vous réussissez bien, vous faites des amis. Pour vous, c'est un départ. C'est un nouveau départ. C'est une, ouais. non,
et puis même si on fait à chaud, sur le moment, j'ai beaucoup souffert de ça. Parce que, et je me suis toujours promis, si un jour j'avais des enfants, de leur faire confiance. Quoi, parce que le pire, je trouve, pour un jeune... c'est de ne pas avoir la confiance de ses parents. C'est terrible.
Oui, c'est
et moi, je rentrais à la maison et je savais que mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais, pensaient que de toute façon, j'allais échouer. Enfin, donc,
je pense que ce n'est pas un manque de confiance.
Ah ouais,
il y a une incompréhension.
Ouais,
c'est-à-dire que vos parents, dans leur désir de vous voir devenir fonctionnaire, c'était des parents enfin, aimants qui voulaient au fond le meilleur pour vous. Et le meilleur
vrai.
Pour eux, de leur point de vue, c'était la sécurité et la stabilité d'un emploi. Je ne sais pas eux-mêmes
c'est
si... peut-être qu'eux étaient dans une situation économique, vous dites, milieu plus modeste, peut-être travaillant dans le privé, avec des choses plus précaires. Et peut-être qu'à ce moment-là, pour eux, être fonctionnaire, c'était au moins vous auriez une stabilité sur ce plan-là.
Oui, c'était une forme de sécurité.
C'est ça. Ils voulaient... C'est sûr. Pour eux, en tant que parents, le meilleur pour vous, c'était cela. Et finalement, vous avez eu, comme vous dites certainement, à travers vos professeurs, qui vous ont, parce que vous, ils ont vu vos capacités, vous ont encouragé, au fond, à faire une classe préparatoire qui est, c'est vrai que c'est quand on connaît pas, enfin, il y a beaucoup de gens, c'est un univers complètement inconnu, et du coup, il y a une distance qui peut s'installer malgré soi.
Oui.
Parce qu'au fond, c'est comme si on n'avait plus les mêmes codes et le même langage. Et c'est douloureux de part et d'autre.
Oui, tout à fait, je confirme.
Mais après, vous avez fait votre vie. Il y a quelque chose, au fond, vous avez manqué. Je pense, quand vous dites manque, vous auriez aimé, évidemment, comme tout enfant, être encouragé, valorisé par vos parents. Et vous en avez manqué de cela.
Oui, et puis je pense que ce qui, comme je dis souvent, c'est l'échec de ma vie, quoi. Voilà,
Qu'est-ce qui est l'échec de votre vie ?
Cette relation que j'ai pas su, je pense qu'il y a une part de culpabilité de ma part. J'ai l'impression d'avoir pas su, préserver ce lien. Je m'attribue la responsabilité, je pense, et c'est ça qui me rend malheureuse aussi.
C'est difficile de transgresser par rapport à l'histoire familiale. Et finalement, quand on est issu d'un milieu modeste, réussir, ça peut être vécu comme une forme de transgression, de désaveu, ce qui n'en est pas. Mais je pense que j'entends votre culpabilité, au fond. Alors
oui, c'est ça, oui.
Ouais.
Et puis c'est vrai que souvent, les gens qui m'entourent et qui connaissent un peu mon histoire me disent, tu sais, tu peux pas forcer le destin, tu peux pas demander des choses que... Ils me disent qu'il faut l'accepter, en fait. Voilà, ils me présentent ça un peu comme une forme de fatalité, quoi. J'arrive pas à me faire à cette idée qu'il n'y a pas un peu d'émotion, de rationnel aussi, qui reprennent le dessus là-dedans. Et c'est tellement pour moi incompréhensible, en fait. Et alors, c'est marrant parce que, alors, évidemment, en toute proportion gardée, mais on parle de Jean-Paul Belmondo aujourd'hui. Et puis, la semaine dernière, j'ai vu comme ça une émission, une fin d'émission sur Renaud, que je connais finalement très peu, et qui montrait à quel point cet homme, finalement, a bataillé pour faire sa carrière. Finalement, un immense chanteur, un écrivain aussi, enfin voilà, des gens qui avaient un père qui était un intello et qui du coup comprenait pas du tout ce que faisait son fils, etc. Et ça m'a amusée en même temps de voir cette émission parce que je me suis dit, au fond, lui aussi, il a dû à un moment donné faire son propre chemin en laissant derrière lui, au fond, des attentes de son père qui n'étaient pas celles qu'il réalisait, etc. Et je me dis finalement, est-ce que c'est une fatalité de... Est-ce qu'il faut accepter, au fond, et puis se dire tant pis, j'ai fait ce que je pouvais, mais tant pis, quoi, voilà. Et autour de moi, les gens me disent ça, et moi, j'ai du mal à accepter ça.
Oui, parce que c'est quelque chose qui reste douloureux, comme si vous vous en attribuiez la responsabilité à un moment dans un peu cette distance qui s'était installée, malgré vous. Comme si, par rapport aux attentes, vous aviez déçu. C'est toujours difficile pour un enfant de... un enfant a toujours peur de décevoir ses parents. Et en même temps, grandir, parfois, ça passe aussi par cela. C'est-à-dire, si c'est parfois pour se réaliser, simplement. C'est-à-dire que les désirs que les parents peuvent avoir pour leurs enfants ne sont pas ceux de l'enfant. Et la transgression, elle peut simplement venir de cela, mais ça passe par une réalisation personnelle. Mais ce qui est compliqué, c'est que, enfin, vous dites, aux yeux de votre famille, vous êtes celle à qui tout réussit. Et objectivement, vous dites, bon, ben voilà, avec votre mari, vous l'avez rencontré très jeune, mais vous êtes un couple qui fonctionnait bien, vous avez une belle relation avec vos trois garçons, professionnellement, vous aimez votre boulot. Donc, il y a cette image de la réussite, et en même temps, comme si la réussite se devait au prix d'un certain qu'il fallait y sacrifier une part de soi-même et de son enfance.
Oui, c'est ça. Exactement.
Mais je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre ce que vous ressentez. On n'en parle pas assez de ce qui peut être. Il peut y avoir. C'est difficile de changer de statut social, de milieu social. Parce que c'est vécu souvent, au fond, comme si. Comme si vous savez, on se sentait plus à sa place, ou que on prenait les autres de haut, de sa famille, ou qu'il y avait un manque de considération. Alors que c'est pas ça. C'est simplement parfois, il y a plus le. Finalement, il faut. C'est un peu, ça rejoint finalement la discussion autour de l'amitié, c'est-à-dire qu'on avait pas perdre de vue ce qui a créé, ce qui a fait le lien intime, qui va bien au-delà, enfin, du métier ou de l'univers dans lequel on évolue. Mais quand vous parlez de votre père, on sent toute la tendresse que vous lui portez. Et même quand, je vais vous dire, quand vous parlez de votre mère, on sent une fille aimante, une fille qui est très en attente, et presque qui s'en veut comme si vous étiez responsable de cette distance, alors que vous n'y êtes pour rien. Vous avez tracé votre chemin et vous en avez beaucoup de mérite. Vous voyez, vous en avez beaucoup de mérite, mais il y a aussi, certainement par rapport à l'histoire, peut-être, j'y pense en vous écoutant, de votre mère qui vous a eu, très jeune, à 19 ans, qui ça a été compliqué. Alors, votre venue, puisque vous dites que au départ ses parents, vos grands-parents lui ont un peu tourné le dos. Enfin,
ouais,
si
ouais,
j'ai bien compris. Ouais. Alors à 19 ans, je ne sais pas quels étaient ses rêves. Parce que vous me dites on n'était pas désiré. Vous savez, je crois que ça fait souffrir beaucoup de monde aussi de penser ça, parce que bah il n'y avait pas la contraception comme aujourd'hui. Mais enfin, vous savez, même à une époque où les grossesses s'annonçaient un peu par surprise, les femmes qui vraiment ne voulaient pas de la grossesse trouvaient des moyens pour ne pas la mener à terme.
Oui, oui.
Bon, moi j'entends, et vous l'avez dit à un moment d'ailleurs, que bah, vos parents se sont mariés un mois avant votre naissance, ils sont restés ensemble tout au long de leur vie, alors peut-être que effectivement les derniers temps c'était plus compliqué parce que on passe pas une vie ensemble sans qu'il y ait forcément un moment des périodes des hauts et des bas, et puis là votre papa était plus fatigué, mais pour autant ils sont restés ensemble, donc il devait y avoir quand même un grand attachement entre deux. Et puis quels étaient les rêves de jeune fille, de jeune femme, de votre maman? Vous voyez, je ne sais pas si elle en parlait, si elle l'évoquait. Est-ce que finalement, vous n'avez pas... Vous savez, parfois, on porte un peu des rêves, des espoirs de nos parents, malgré nous. On s'en rend compte après coup, ou parfois après un travail sur soi, qu'en allant dans telle ville, dans telle région, en évoluant dans tel domaine, au fond, on réalise des rêves qui étaient ceux de nos parents. Qui sait, vous dites, vous m'avez dit, vous avez été la seule à faire des études. Alors en plus, le contraste est d'autant plus saisissant que vous avez une sœur jumelle.
Oui,
qui, elle, a fait des études plus courtes, un CAP, qui malheureusement a eu des problèmes de santé. C'est dur aussi. C'est dur pour elle, bien sûr, mais c'est dur pour vous. Parce que vous, finalement, c'est comme s'il y avait... Patricia, ça va, hein, ça va. Elle, tout va bien, donc au fond, on n'a pas trop besoin d'appeler, de prendre des nouvelles. Tout réussit. Ce qui n'est pas, qui peut même, malgré tout l'amour que vous portez votre sœur, toute l'affection que vous portez vos parents, il peut y avoir, et peut-être du côté de votre mère, inconsciemment, parce que il y a pu y avoir à certains moments, ce qui n'empêche pas qu'elle vous aime, une forme de un peu jalousie.
Ouais.
De tout ce que vous avez pu entreprendre, et finalement vous êtes partie tôt, vous avez fait des études, vous avez très bien réussi, vous avez rencontré votre mari, vous avez pu quand même, vous vous êtes réalisée sur tous les plans, parce que non seulement vous avez réussi dans vos études, dans votre métier, mais dans votre vie de couple et dans votre vie de famille. Il y a de quoi susciter, vous voyez.
J'ai pas le droit de me plaindre, mais c'est vrai.
Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ce que je vous dis, Patricia.
Ouais.
C'est pas ça. Parce que moi, j'entends très bien ce qu'il y a derrière, l'envers de la réussite pour vous et ce sentiment. Ce que je veux dire, c'est que pour votre mère, il y a pu y avoir, peut-être que d'ailleurs, c'est ce qui s'exprimait indirectement à travers certaines de ce que vous perceviez comme des reproches, un peu de jalousie. On peut jalouser ce qu'on aime. Aussi,
je trouve ça effrayant, moi. Mais oui.
Oui, mais vous savez, rien de ce qui est humain n'est effrayant, au fond. parce qu'on a cette image idéale de nous, de la famille, de nos liens, ou comme si tout devait être qu'amour. Comme dans, je rejoins un peu le plan de l'amitié. On ne voit que la belle image, le côté solaire. Mais je disais aussi que dans tout lien, dans toute relation humaine, il y a de l'ambivalence. Je suis d'accord que la jalousie vient ternir beaucoup de relations, ça peut... La jeune fille qu'elle a été, je ne sais pas si elle parlait de ses rêves, il peut y avoir un peu de ça. Et comme si finalement, pour vous, il y avait moins de... Pas moins d'amour, mais moins d'indulgence, et qui pouvait susciter « Patricia, tout lui réussit ».
Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous me conseillez pour la suite, quoi, c'est-à-dire je vais proposer d'y aller mi-septembre. J'ai fait exprès de tourner mon message en lui disant est-ce que ça te ferait plaisir que je vienne tel
week-end, etc. Vous aimeriez qu'elle vous dise. Ouais.
Et voilà, et en fait, elle m'a pas répondu oui, évidemment, je serais très heureuse ou ça me ferait beaucoup de plaisir que tu viennes. C'est j'ai telle contrainte tel jour, tu peux venir tel autre jour. Voilà comment c'est répondu, quoi.
Mais est-ce qu'elle n'a pas toujours été oui, vous êtes. Vous attendez de votre mère, finalement. Est-ce qu'elle était peu démonstrative dans.
Ah oui, c'est le
manque. Oui, dans ses mots, dans ses gestes. D'affection, c'est ça.
Ah oui, surtout vis-à-vis de moi. Oui, ça c'est sûr.
D'accord. Elle est davantage avec votre sœur?
Oui, alors c'est l'image que j'en avais parce que on a des tempéraments très 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 différents.
Visiblement, oui.
J'ai toujours été vue comme celle qui est solide, qui
oui, c'est ça.
Voilà, qui avance. Oui. C'est vrai que moi, j'ai pris mon destin en main, quoi. Ma sœur est quelqu'un qui a un tempérament beaucoup plus pas faible. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais
plus fragile, peut-être.
Oui, voilà, certainement plus fragile.
Et qui en plus avec des problèmes de santé, une santé plus fragile.
Donc c'est vrai que du coup, ma mère, je lui en veux pas parce que pour le coup, c'est normal. Elle a tourné toute son
son attention sur celle de ses enfants qui était la plus fragile, ce qui fait un parent. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, c'est comme si cette image de quelqu'un de celle qui est forte, solide et qui est accentuée par la gémellité fait que comme si vous n'aviez pas besoin de cette attention. Mais ce que votre mère n'avait pas spontanément, ce qui ne veut pas dire parce qu'elle n'exprime pas. C'est son affection, qu'elle ne sait pas la mettre en mots ou en gestes, qu'elle ne vous aime pas. Vous voyez bien avec votre sœur, quand il y a de la fragilité, là, elle peut davantage se rapprocher.
Oui.
Donc, je pense que votre mère, au fond, même si elle ne sait pas vous le dire, ça lui fait plaisir que vous veniez. Elle ne sait pas vous le dire. Mais peut-être qu'à son contact, enfin, quand vous repartez, qui vous dit qu'elle ne ressent pas un vide. Et vous voyez, elle, pas plus qu'au fond, qu'est-ce qu'elle a exprimé au décès de votre père, finalement de...
C'était très, très difficile à décoder, parce que, il y a deux façons de dire les choses, quoi. D'une certaine manière, moi, je l'ai quand même sentie soulagée, au sens, c'est vraiment... pas gentil ce que je vais dire, mais c'est malheureusement ce que j'ai quand même perçu. Je l'ai sentie soulagée et délivrée d'un fardeau qu'elle avait difficulté à prendre en charge. Au départ, c'est ça qu'on a senti, ma sœur aussi. Au départ, c'est vraiment ça.
Mais aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, alors c'est là où moi j'ai encore plus de mal à entendre ça. Aujourd'hui, il y a une forme effectivement de retour sur c'est pas de l'hypocrisie, je peux pas dire ça, mais j'ai du mal en fait.
Alors ce que vous percevez comme de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle en parle avec comme si, enfin, en disant qu'il lui manque, que...
Oui, voilà, en fait,
je pense que c'est pas de l'hypocrisie. Je comprends ce que vous ressentez, parce que vous d'abord vous êtes dans votre deuil, dans votre chagrin. Vous me dites que ça a été très douloureux pour vous, ce placement. Évidemment,
vous n'êtes tout en... Puis on se sent impuissant, en fait. En tant qu'enfant, en fait, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'il soit là-bas ? Sauf que moi, je suis à 800 km et que ce n'était pas possible pour moi d'agir.
Je comprends très bien. C'est l'impuissance. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui partagez le quotidien. Vous ne pouviez pas proposer, à ce moment-là, viens à la maison. Ce n'était pas possible. Donc, évidemment, pouvoir dire, c'est aussi respecter jusqu'au bout, au fond, leur couple. Parce qu'ils étaient un couple. Et c'est pour ça que, vous savez, encore une fois... c'est ça aussi l'ambivalence. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être que aussi le voir, ça l'a votre papa plus fatigué, qu'il y avait quelque chose qui était lourd à certains moments, mais que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de sentiments de la part de votre mère, et qu'aujourd'hui. Elle est sincère quand elle dit qu'il lui manque. Vous avez du mal à l'entendre parce que, vous savez, ça me fait penser aux couples très conflictuels qui se disputent. On a l'impression que leur quotidien, enfin leur vie n'a de sens que pour haïr l'autre. Vous voyez, je dis presque... enfin, se détester mutuellement. Et puis quand l'un des deux disparaît, celui qui reste parfois s'effondre. Et très triste, et là on se dit, mais c'est pas possible, et effectivement, en tant qu'enfant, on dit, mais enfin, c'est pas possible, quoi, toute ta vie, t'as détesté maman ou papa, et là, mais ils sont sincères. Parce que, bon, c'est un lien un peu tordu, j'en conviens, mais il y a de l'attachement. Et c'est ce qu'en tant qu'enfant, si vous voulez, c'est ce qui est compliqué, parce que on reste toujours l'enfant de ses parents. Et on a ce regard sur leur couple d'enfant, même si vous-même, vous êtes une femme, vous êtes maman, mais on garde toujours ce regard-là. Et donc tout remonte, et surtout que vous n'avez plus votre papa aujourd'hui. Mmh. Mais elle est aussi cette femme qui est démunie et qui revient, c'est aussi son histoire, et une longue histoire. Donc à un moment, que vous dire, Patricia ? Moi j'entends votre douleur, j'entends... il faudrait qu'elle vous blesse moins, parce qu'il y a beaucoup d'attentes chez vous. Et à un moment, c'est bien parfois quand on peut déposer ça justement dans un lieu. La thérapie, même des entretiens, peuvent beaucoup aider, parce qu'on peut parler de ses peines, de ses manques, et du coup, il y a une distance qui se met en place, pas géographique, intérieure, une distance qui fait qu'on souffre moins, des réflexions même éventuelles. Et puis, il se passe des choses, parfois, ça c'est un des effets de la thérapie, ça prend du temps. Mais après, bon, c'est différent pour chacun. Qu'à un moment, c'est comme si... Je ne vais pas vous dire qu'on n'est plus jamais en attente, parce que ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose en nous de l'espoir, de l'attente qui demeure. Mais peut-être un peu moins. Qu'il y a quelque chose en nous de l'enfant qui s'est consolé, où on a réglé aussi une culpabilité, quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, il y a une rencontre qui peut se faire, parce que tout en gardant une certaine distance pour se protéger, comme on est moins en attente, il y a moins de... Ça rejaillit sur la relation qu'on a avec le parent. Et quelque chose de plus ouvert, de plus disponible, où on le prend à ce moment T. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas par moment des petits sursauts qui peuvent réapparaître, dire « ça m'agace » ou bon. Mais après tout, on laisse passer, oui. Et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, vraiment. Il est dans la relation.
Oui. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que vous avez une incroyable capacité à décoder. J'admire vraiment votre capacité à écouter et puis à décoder les situations. Mais j'entends ce que vous dites et je pense que si j'essaye de... Non pas de me détacher parce que c'est la tentation la plus facile. Je sais que j'en serais très malheureuse et ça ne résoudra rien.
Mais
de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de prendre un peu du recul par rapport à... je voudrais peut-être trop qu'elle me ressemble dans ma relation avec mes enfants. J'attends des choses qu'elle n'est pas capable de me donner, quoi.
C'est ça qui est douloureux aussi pour vous, dans le fait de la relation que vous avez avec vos enfants qui vous renvoie, vous, ce qui vous a manqué. Mais la relation n'est pas la même. Et puis, c'est formidable que vous ayez pu créer cette relation-là. Vous avez raison quand vous dites, je vous rejoins, de vous détacher, mais pas au fond géographiquement ou dans le, puisqu'au fond vous en êtes malheureuse. Mais oui, il y a une forme de détachement qui est pas facile à mettre en place, mais qui peut se faire. Il y a Joseph qui dit, c'est un conflit de loyauté. Finalement, en naissant, on s'invite presque dans une famille, dans un couple, au sein d'un couple, et jeune de surcroît. Vous avez pu surprendre vos parents, les bousculer, au fond, par votre cheminement. Ce qui n'empêche qu'au fond, je pense qu'ils étaient fiers de vous. Il y a Frésia qui dit, peut-être que parler davantage à votre mère, sans a priori, parce que à vous entendre, on sent qu'il y a une grande incompréhension entre vous. Il y a Joseph qui dit, j'aime bien penser, moi, que dans toute jalousie, il y a un désir qui s'exprime. Il faut assumer sa réussite, la partager, la reconnaître, la dire. Des réactions aussi sur Facebook, Paul, peut-être ?
Oui. Alors, il y a Flo qui, elle, mis de la distance. Elle a dit, j'ai la même mère. J'ai laissé tomber, je me protège et je suis bien. Elle a 87 ans et rien ne l'atteint. Un vrai cœur de pierre, excepté pour ma sœur et surtout mon frère. J'ai trop souffert, c'est terminé. J'ai mon mari, mes trois enfants, mes deux petits-enfants. Le bonheur sans elle, tant pis. Elle en est là, Flo, aujourd'hui. Mais il y a le valet de cœur qui dit, vous devriez être un pur objet de fierté pour votre mère. Vous avez fait de votre mieux, et plus encore, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes coupable de rien. Non. Chaque parcours humain a ses charges et ses leçons de vie. Ne portez pas des charges qui ne vous reviennent pas directement. Soyez plus heureuse encore.
Mais ils ont raison tous deux, le valet de cœur, en disant que bien évidemment que vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes coupable de rien et certainement pas de l'histoire de votre mère et de ses espoirs déçus et de ses manques. Et puis Marie-Pierre, oui, elle aussi, elle a raison de s'éloigner d'une mère qui la blesse trop, qui a un cœur de pierre. Parfois, s'éloigner, c'est aussi se protéger et prendre soin de soi. Donc, rien à redire à ce niveau-là. J'entends dans la relation que vous avez quelque chose de différent et j'entends pas un manque d'amour, en tout cas certainement pas de votre part et je pense pas de la part de votre mère. Il y a une tentative de comprendre, il y a un élan, il y a ce deuil aussi que vous êtes en train de vivre et puis surtout j'ai entendu que ça vous rendait malheureuse. Donc il faut essayer de peut-être ça, de pouvoir un peu être accompagné là-dessus et pouvoir en parler, vous voyez. Parce que c'est important de régler ça aussi, de ce rapport à l'enfant que l'on reste, que l'on demeure finalement au fond de soi. Et justement, quand les parents sont encore là, pour ne pas avoir trop de regrets par la suite. Vraiment.
C'est ça.
Je vous embrasse, Patricia.
Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, vraiment pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.
Vous êtes bien.